Et une fois n'est pas coutume, on va ouvrir cette page sport avec le sport mécanique. Lionel Sabot ont disputé ce week-end le Grand Prix de France de MotoGP et pour la première fois depuis 71 ans, c'est un Français, Johan Zarco, qui s'est imposé sur le tracé Bugatti au Mans.
Oui, dernier après le premier virage où il avait failli tomber après avoir été percuté par l'Espagnol Joan Mir, le vétéran de la grille de MotoGP a choisi une stratégie audacieuse qui a été récompensée. L'Avignonnais, qui s'est lancé en 11e position sur la grille de départ, a fait le pari de disputer toute la course en pneu pluie, alors que tous les autres concurrents ont changé au moins une fois, voire plus, de moto quand la piste avait partiellement séché. C'est la première fois depuis 1954. Et la victoire de Pierre Monneret à Reims, qu'un pilote français remporte le Grand Prix de France de moto vitesse dans la catégorie Rennes. À l'aise sous la pluie, mais aussi sur les pistes humides ou séchantes, Zarco a pris la tête au 8e tour des 26 tours de course et ensuite été énorme et tout simplement intouchable devant les 120 000 spectateurs qui étaient massés sur le circuit Bugatti. Tellement intouchable que Zarco s'est même permis le luxe, et c'est pas rien, de creuser un énorme écart sur son dauphin, le sextuple champion du monde Marc Marquez, qui a terminé à près de 20 secondes du vainqueur. Écoutez Johan Zarco.
C'est incroyable, c'est difficilement palpable. Il y a ce moment avec le public, ça donne des décharges d'émotions, on a envie de pleurer, il y a quelques larmes qui passent. Et après, il y a, enfin, voilà, le temps continue, plein d'autres choses se passent et c'est vraiment bizarre. Surtout, voilà, il y a eu le bon choix de pneus. On savait que la pluie allait arriver et presque, il a fallu patienter. Parce que quand je vois tout ce qui s'est passé derrière moi, il y en a qui sont passés deux fois au stand, qui ont fait des doubles longs laps. Enfin, c'est des trucs un peu de fou. Et moi, je suis resté en piste, je tenais mon rythme, j'essayais d'améliorer, de contrôler, parce qu'en fait, le pneu, je pense qu'on avait tendance à brûler le pneu arrière parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et ça, je sais que j'arrive à très bien le contrôler. Et le fait de continuer à prendre de l'avance, ça m'a rassuré. À chaque fois, je cherche à tout faire pour gagner les Grands Prix. Et là, je le gagne. Mais j'ai l'impression que il fallait attendre. Et c'est assez bizarre.
Un Grand Prix d'autant plus extraordinaire pour Johan Zarco, puisque sa maman, pour la première fois de sa, et son papa aussi, pour la première fois de sa carrière, était présent sur une course. Le double champion du monde de Moto2, qui disputait son 150e Grand Prix en MotoGP, ainsi décroché sa deuxième victoire en catégorie Rennes, après celle déjà inattendue, arraché en Australie, c'était en octobre 2023. Et cette année, il a eu sa Marseillaise, puisqu'on s'en souvient, en Australie, la bande-son n'était pas partie. Il a offert à Honda, son équipe, le premier succès depuis avril 2023. Espérons maintenant, Jean-François, qu'il ne faille pas attendre 2096 pour voir un pilote français s'imposer au Grand Prix de France.
Ouais, quoi qu'il en soit, chapeau Zarco. L'actualité du rugby maintenant, avec la 23e journée du top 14. Michael Juneski, on approche de la fin de la saison régulière.
Et oui, le dernier résultat du jour, c'est la victoire de Montpellier face à l'Union Bordeaux-Bègles, deuxième du classement. Les Montpellierains se sont imposés avec la manière 46-27. Conséquence, dans un championnat très serré, ils font un bond dans le tableau de la 10e à la 6e place. Ce week-end, le Stade Toulousain avait surclassé le RC Toulon sur son terrain, 50-16. La Rochelle l'avait emporté sur le terrain de Vannes, Lanterne Rouge, 30-29. Victoire encore à l'extérieur de la section paloise contre Lyon, 29-27. Perpignan s'est imposé de peu dans un duel de mal classé contre le Stade Français, 20-18. Alors, en attendant le match entre Castres et Clermont, reporté, hein, vous le savez, en raison du décès accidentel de Raïsouké, on retrouve au classement Toulouse comme leader indétrônable, suivi de l'UBB et de Toulon. Bayonne est au pied du podium devant Castres et Montpellier, qui gardent un meilleur goal average que le Stade Rochelais, 7e. En bas de tableau, Perpignan a doublé son adversaire du week-end, le Stade Français, pour prendre la 12e place. Les Bretons de Vannes sont dernier, mais à un point seulement de la 13e position. Il reste encore 3 journées avant la fin de la saison régulière et les play-offs.
Le point maintenant sur le football et notamment la Ligue 1, c'était hier l'avant-dernière journée du championnat.
Alors on va commencer par les performances de haut du tableau. Marseille et Monaco qui ont validé leur place pour la Ligue des Champions la saison prochaine, et à l'inverse, Lyon a probablement dit adieu à la campagne dans la Champions League 2025-2026. Mission accomplie tout d'abord pour l'OM qui a arraché la victoire dans les dernières minutes de la rencontre au Havre. Succès 3-1 pour le dauphin du PSG. Monaco aussi a assuré sa sa qualification en Champions League après s'être imposé sur Lyon 2-0. Les Monégasques sont troisièmes. À l'inverse, c'est la douche froide dans les rangs lyonnais, septième du classement. Les chances d'accéder à la plus prestigieuse compétition des clubs sont désormais très minces. Il y aura encore des enjeux pour la dernière journée. Dimanche prochain, Nice, Lille, Strasbourg et même Lyon peuvent mathématiquement terminer quatrième et ainsi disputer le tour préliminaire de cette Champions League. Nice quatrième après avoir perdu à Rennes 2-0. Lille cinquième qui s'est incliné à Brest 2-0. Les Niçois à égalité de points avec Strasbourg sixième après sa défaite à Angers 2-1. Concernant maintenant le bas du tableau et donc la course au maintien, les Verts peuvent encore y croire. Saint-Etienne a battu Reims 2-0. Les Stéphanois sont 17e et à un point des Havrais barragistes et à deux points de Nantes et de leurs adversaires du jour de Reims. Alors pour Nantes, le verdict aussi tombera le week-end prochain. Le club d'Antoine Comboiré a fait match nul à Auxerre, un but partout. Allez, encore deux résultats mais sans incidence. Le Paris Saint-Germain qui a largement dominé Montpellier, la lanterne rouge, 4-1. Et Toulouse et Lens qui ont fait un nul, un but partout. La dernière journée du championnat de France, ce sera à suivre dimanche prochain. Tous les matchs en simultané à partir de 6h, heure de Nouméa. Et puis notez par ailleurs que la cérémonie des trophées UNFP se déroulait déjà aujourd'hui pour récompenser les grands acteurs de cette saison de Ligue 1. Notez qu'Ousmane Dembélé, le Parisien, a été désigné meilleur joueur du championnat de France.
Et il faut aussi faire un petit tour sur les autres pelouses européennes.
Et on va commencer par l'Espagne avec Kylian Mbappé qui n'a pas tout perdu cette saison. Grâce à un triplé aujourd'hui sous les couleurs du Real Madrid dans le Classico contre le leader, le FC Barcelone, l'attaquant de l'équipe de France a battu le record du nombre de buts inscrits pour le club madrilène en une saison, 39 réalisations. Et pourtant, ça n'a pas suffi pour battre le Barça qui l'emporte 4-3. En Angleterre aussi, il y avait un duel au sommet qui s'est soldé par un nul entre Liverpool et Arsenal, 2-2. Newcastle, troisième derrière les Reds et les Gunners, a pour sa part battu Chelsea 2-0. Rien ne va plus pour Manchester United, dominé par West Ham 2-0. Les Mancuniens sont 16e. En Allemagne, le Bayern Munich a dominé le Borussia Mönchengladbach 2-0. Et puis on termine avec l'Italie et l'Inter Milan qui a dominé Torino 2-0. Naples, le leader du Calcio, a fait match nul contre le Genoa 2-2. Hier, la Juve et la Lazio de Rome avaient fait match nul, 1-2.
Un mot de handball pour vous signaler que les Français ont battu la Norvège en Eurocup. Succès des tricolores 35-34. Ils terminent invaincus après la 6e et dernière journée de cette compétition. On va maintenant passer au cyclisme avec la suite du Giro. Lionel, c'était cette nuit la 3e étape, longue de 160 km autour de Vlorë en Albanie.
Oui, une 3e et dernière étape courue en Albanie qui a été remportée par le Danois Mads Pedersen. Il s'est imposé au sprint devant le Néo-Zélandais Corbin Strong et le Vénézuélien Orluis Orlar. Une victoire avec 10 secondes de bonification qui permet aux Danois de reprendre le maillot rose de leader de ce Tour d'Italie 2025. Un maillot que Pedersen avait déjà porté à l'issue de la toute première étape avant de le perdre pour une petite seconde à l'issue de la deuxième. Au classement général, Mads Pedersen compte 9 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic, 14 secondes d'avance sur le Tchèque Matthias Varek. Romain Bardet, le premier Français au classement général, 22e à 1 minute du leader. La 4e étape de ce Tour d'Italie se courra dans la nuit de mardi à mercredi pour nous, au programme 189 km entre Alborebello et Lecce.
Du tennis, Mickaël, avec des Français en forme au Masters 1000 de Rome.
Ouais, sur la terre battue italienne, dans le 3e tour, une victoire tout d'abord du Français Arthur Fils. Il l'a emporté face au Grec Stefanos Tsitsipas en 3-7, 2-6, 6-4, 6-2. Autre victoire de prestige, celle de Corentin Moutet qui s'impose sur le Danois Holger Rune. Encore une fois, à l'issue d'un combat en 3 manches, 7-5, 5-7, 7-6. C'est la première fois que Corentin Moutet élimine un adversaire du top 10. La tâche s'annoncera toutefois dure. En 8e de finale pour les deux tricolores, Corentin Moutet retrouvera le Britannique Jake Draper, tête de série numéro 5. Quant à Arthur Fils, il défiera tout simplement le numéro 2 mondial, l'Allemand Alexander Zverev.
D'un Français à l'autre, Lionel, avec du golf.
Oui, avec une très belle victoire du tout jeune Français Martin Kouvras sur le DP World Tour à l'Open de Turquie. À 22 ans, il signe sa toute première victoire sur un circuit pro à l'issue des 4 tours de compétition. Il s'impose avec un total de 267 à 17 coups sous le par. Il a devancé de 2 coups l'Espagnol Jorge Campillo et le Chinois Hua Tongli. Écoutez Martin Kouvras.
Je rêvais de ce moment depuis tout petit. On se lève le matin pour gagner des tournois. Donc là, en arrivant à en gagner un dès ma première année sur le tour, c'est juste un rêve et je suis super heureux de le faire. J'étais vraiment sous pression, mais c'était agréable. J'avais le cœur qui battait à 8000, mais le fait d'avoir discuté avec mon cadre et en fait d'avoir un peu essayer d'être coup par coup, ça m'a permis de me détacher un peu de ça, mais à la fin, là, les deux derniers trous, c'était vraiment nerveusement, c'était très très éprouvant.
Et avec cette victoire, le jeune joueur français empoche la coquette somme de 416 000 euros, soit près de 50 millions de francs pacifiques. Et puis sur le PGA Tour, le grand circuit américain en jouait ce week-end, le Tourist Championship, c'était en Pennsylvanie, c'est l'Autrichien Sepp Straka qui s'est imposé avec deux coups d'avance sur l'Américain Justin Thomas et l'Irlandais Sean Lowry. Mathieu Pavon a pris la 54e place de ce tournoi.
Midi et deux minutes, une pause dans ce magazine des sports du lundi avant de voir l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie. Nous allons notamment parler avec notre invité tout à l'heure, Mickaël, de la reprise de la saison hippique. On se retrouve dans un petit instant.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés, faisons-les rêver.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Bodin.
Dans un instant, nous allons revenir sur les principaux résultats du week-end. Mais avant cela, parlons de l'actualité des courses hippiques. Nous sommes en direct, Mickaël Juneski, avec Nicolas Schneider, qui est le président de la Fédération des sociétés de courses hippiques de Nouvelle-Calédonie.
Exactement, Nicolas Schneider, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions avec évidemment cette annonce. Hein. Tout d'abord, évidemment, le premier commentaire que vous pouvez nous faire, c'est, on l'imagine, une grande satisfaction de pouvoir annoncer à tous les Calédoniens pour cette année le retour des courses hippiques.
Oui, effectivement, le retour des courses hippiques, donc dès cette année. Je vous cache pas que ça n'a pas été simple, effectivement, d'élaborer ce projet, mais... Il était important pour la filière équine dans son ensemble que les courses redémarrent dès 2025. Donc une saison hippique qui débutera le samedi 31 mai sur l'hippodrome Robert Demeté de Téné à Bouraille. Une saison qui compte 9 réunions de course et qui dans les points d'orgue seront bien sûr et la Bouraille Cup le 12 juillet et la Casino Coupe Clark qui se tiendra donc dimanche 10 août à Nouméa sur l'hippodrome Henri Millard.
Alors avant d'évoquer cette saison 2025 annoncée, tout d'abord évidemment l'état des lieux pour toute la filière. On l'imagine, une période d'interruption quand on parle course hippique, ça laisse des traces évidemment.
Oui, effectivement. Donc les courses avaient déjà été impactées avec l'épisode Covid. Les émeutes ont mis un coup d'arrêt soudain à quelques jours de la saison 2024. Il a été important de très vite prendre les bonnes décisions. Alors bonnes, je pense que de toute façon elles étaient contraintes puisque il y avait l'impossibilité d'organiser des manifestations et des regroupements sur des sites. D'un point de vue sécuritaire, il aurait été aussi compliqué de maintenir ces courses hippiques. Donc on a été contraint effectivement l'année dernière de renoncer à quelques jours à la saison de course. Un coup d'arrêt qui impacte fortement la filière, hein, puisque pour tenir des courses ou toute épreuve manifestation hippique, il faut que l'activité d'élevage soit aussi dynamique et face à ces incertitudes récurrentes sur les dernières années, effectivement, on a une problématique aujourd'hui de baisse évidente des effectifs, que ce soit pour le monde des courses, mais également pour les autres activités du cheval.
Les principales difficultés auxquelles ont dû faire face, vous l'avez évoqué déjà, bien sûr, d'ordre financier, mais encore, voilà, pour tous les acteurs impliqués dans les courses hippiques, on imagine une reprise, ça ne peut pas se faire en un jour. Il y a beaucoup de choses qui ont dû être revues.
Oui, bah, la première inconnue, c'était effectivement le budget, puisque on n'échappe pas, comme de nombreuses associations, à un budget de fonctionnement. Et puis, j'aurais tendance à vous dire, c'est la bonne chose qui a été mise en place depuis 2012 avec l'arrivée du PMUNC en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, on a cette chance, on va dire, d'avoir une taxe sur les produits nets de jeu qui alimente les collectivités locales et qui dont l'objectif est de financer les dotations et le fonctionnement des courses. Et on a parté de la filière équine.
Le ressenti pour les éleveurs, les écuries, hein, lorsqu'il a fallu mettre en place ce schéma, cette reprise, quels étaient les principaux commentaires que vous avez pu entendre ?
La difficulté, c'était d'élaborer un programme qui soit suffisamment attrayant pour les socioprofessionnels, mettre des chevaux à l'entraînement, mais tout en étant sensible à la situation économique et sociale du pays, et puis la problématique budgétaire que je vous ai évoquée. Et donc c'était de reconstruire effectivement un projet qui s'articule autour de l'activité du budget, qui est bien sûr contraint par rapport à ce qu'on a pu connaître par les années passées. Et au-delà de la problématique locale, effectivement, on aurait pu attendre un soutien de la Fédération nationale. Alors la Fédération nationale nous soutient puisqu'elle renouvelle le partenariat et la convention dans laquelle on est engagé depuis un certain nombre d'années. Mais par contre, elle n'est pas désuée aussi de contraintes propres. Au niveau national, il y a aussi les difficultés autour du PMU et autour du budget, ce qui fait qu'on n'a pas pu négocier en sus un budget supplémentaire sur la Fédération nationale.
Alors, on se projette maintenant sur cette reprise, cette saison 2025. Vous l'avez dit, premier rendez-vous en date, ce sera le 31 mai. Il y aura quand même quelques nouveautés. Il y a notamment le cas des jockeys. C'est important dans les courses hippiques, bien sûr.
Oui, alors les jockeys, c'est aussi parmi les contraintes fortes de notre discipline, puisque c'est une problématique mondiale aujourd'hui. Les jockeys, les faire venir en Calédonie n'a pas été une chose évidente, puisque la Nouvelle-Calédonie souffre aujourd'hui d'attractivité. Alors au niveau des métropolitains, ils ont des craintes effectivement par rapport à l'aspect sécuritaire. Mais c'est pareil, on a tissé des liens avec certains pays et certaines fédérations. Je pense notamment à l'île Maurice, qui nous alimente en jockey. L'Afrique du Sud aussi, où on a pris l'habitude de faire venir des jockeys de cette école. Et puis, ça sera la nouveauté en Nouvelle-Calédonie, c'est que cette année, on aura pour la première fois un jockey, peut-être deux jockeys du Brésil, qui viendront alimenter le peloton.
Alors Nicolas Schneider, en guise de conclusion, un dernier mot en tant que président de la fédération, évidemment, cette année, vous misez beaucoup sur cette saison 2025 pour pouvoir véritablement relancer la machine. On ne peut pas imaginer qu'en Calédonie, ça s'arrête, cette passion du cheval qui anime tous les Calédoniens. Quel est le message que vous souhaitez adresser ?
Je m'évertue à expliquer à tous les adhérents, à tous les socioprofessionnels qu'il faut... Il faut contribuer à la relance des courses. Alors c'est sûr, dans cette problématique budgétaire, qui ce n'est pas simple, puisque ça engage quand même énormément d'argent. Mais il y a une histoire, effectivement, une histoire historique, un lien aux courses qui est culturel, et que, il faut croire à la relance économique, le monde associatif doit redonner, effectivement, réimpulser aussi une dynamique, redonner du rêve aux gens. Et puis, moi, je suis attaché, effectivement, aux courses sur les hippodromes, y compris sur les hippodromes de l'intérieur, puisque c'est un lieu sur lequel on voit des gens de tout univers converger autour d'une même passion qui est celle du cheval.
Merci encore en tout cas Nicolas Schneider d'avoir accepté de répondre à nos questions ce midi.
Avec plaisir, je vous remercie.
Voilà, merci à Nicolas Schneider, donc président de la Fédération des sociétés des courses hippiques de Nouvelle-Calédonie. Je vous redonne la première date à noter, évidemment, le samedi 31 mai pour le premier rendez-vous de la saison 2025. Ça se passera à Bouraï.
Allez, on va maintenant revenir sur les principaux résultats du week-end sport en Calédonie. On va commencer par cette grande fête de la natation. C'était samedi au CNC.
La 29e édition du meeting Total Énergie du Cercle des nageurs calédoniens. Les nageurs, comme toujours, s'affrontaient sur un format unique. Le 50 mètres nage libre. À l'arrivée, Emma Terebo, la Calédonienne de retour sur le territoire à cette occasion, s'est imposée en finale chez les dames. On écoute sa réaction.
Toujours un plaisir, il n'y a rien qu'à changer. C'est trop sympa parce que voilà, on se retrouve toujours autour du même bassin et puis autour de la même compétition. Donc ça fait plaisir. Ça s'est bien passé, ouais. Je me surprends un peu parce que évidemment, j'ai pas l'entraînement. Après les jeux, j'ai complètement arrêté de nager. Donc voilà, c'est vraiment pour le plaisir. Et puis j'arrive quand même à me faire plaisir sur un 50, donc c'est cool. Je m'attendais pas, enfin je savais pas qu'il y avait cette petite surprise de retour sur ma carrière et évidemment bah, j'ai pleuré parce que bah oui, c'est émouvant d'être là à la case départ où tout a commencé et puis de savoir que je peux être un exemple pour les jeunes d'ici, ça représente énormément.
On signalera que chez les messieurs, Mewen Tomek, le nageur de l'équipe de France, deuxième invité d'honneur de ce meeting, a lui été imbattable en finale chez les hommes, donc près de 400 participants, tous âges confondus, étaient engagés dans cet événement au CNC à Nouméa.
Et les surfeurs, de leur côté, avaient rendez-vous à Bouraï.
Ouais, la première manche de la Coupe de Calédonie, 24 participants étaient de la partie pour cette compétition. Joëlle Lebréus, la présidente de la Ligue Calédonienne de Surf.
C'était une très belle manche, beaucoup de vent, des conditions difficiles, mais on avait pas mal de compétiteurs et on a eu du beau spectacle. On a fait un format un petit peu particulier justement cette fois-ci. Chaque surfeur a surfé deux fois et au terme de ces deux séries, on a fait un classement et les quatre premiers sont partis en finale directement. C'est tout à fait une bonne chose, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de compétiteurs et tout le monde était très content de la journée, de la compétition et je pense que ça a redonné un petit peu de dynamisme à tout ça.
Côté résultat, Elise Gérold s'est imposée dans la catégorie longboard. Victoire de Manu Ataru en shortboard espoir et de Nathanaël Lévesque en shortboard open. Prochain rendez-vous pour le surf en Calédonie. Ce sera le 5 juillet, toujours à Bouraï.
Restons sur l'eau avec la deuxième régate du challenge annuel Sirius Solar Industrie. Il se tenait sur deux jours.
En équipage et en double, compétition comme toujours organisée par le Cercle Nautique Calédonien. En temps compensé, samedi, c'est l'équipage de Guilty Pleasure Speed Marine et Puro qui l'emporte devant Pulpito MLS FCD et la troisième sur la troisième marche du podium, on retrouve BNC Léon. Le dimanche, 10 bateaux étaient au départ pour la régate en double. En temps compensé, le duo de BNC Léon l'a emporté devant Maluco Promotex et la troisième place prise par Guilty Pleasure Speed Marine et Puro. C'était la dernière régate avant la New Caledonia Groupama Race, le grand rendez-vous de la voile. Le départ, on le rappelle, sera donné le 15 juin prochain.
Il y avait aussi du VTT ce week-end, c'était à Watom.
Sur la propriété Véron, c'était le retour du Hitchin en souvenir de Thierry Chenevier décédé en 2018. Une soixantaine de participants engagés, 22 km pour les adultes, 7 km 5 pour les jeunes. À l'arrivée, c'est Alix Dudouet qui s'impose chez les hommes, Jessica Bellengage chez les dames. Le prochain rendez-vous de VTT Passion, ce sera le 15 novembre à Deva, la méga rando.
Et puis on va terminer par du Baltrap, une compétition hors territoire. 6 de nos représentants ont participé aux Océaniens en Nouvelle-Zélande.
Et face aux meilleurs tireurs de la région, ils ont remporté 7 médailles, 2 en or, 4 en argent, 1 en bronze. Retour sur la compétition avec Marion Roumagne, entraîneur de la sélection, mais aussi titré, puisqu'avec 2 médailles d'argent, il a été désigné meilleur tireur de ces Océanias.
3 jours de compétition avec une discipline différente par jour. Ça s'est très bien passé pour les Calédoniens parce qu'au final, on a bien performé malgré le peu d'entraînement qu'on avait. Parce qu'on a eu les cartouches en fait pour pouvoir s'entraîner 8 jours avant le départ en fait pour la nouvelle saison. Donc, on a quand même pu faire 2 camps d'entraînement de 3 jours avant de partir. Donc, j'ai gagné les Océanias. C'est une grosse satisfaction parce que c'est la première fois que ça arrive. C'était vraiment une reprise après un an d'attente. C'était pas mal. On avait beaucoup d'arrière-pensée là-dessus. On se disait, mince, on va pas performer parce qu'on n'a pas assez d'entraînement et puis tout. Et les 2 camps d'entraînement, ben, ça nous a un peu crevé, mais on a quand même pu performer là-bas, se remettre dans le coup rapidement.
Marion Roumagne qui décroche donc le titre de meilleur tireur de ces Océania. Une bonne préparation également pour les prochaines échéances. Les championnats du monde et la Coupe des pays et territoires d'outre-mer en 2026 et les Jeux du Pacifique de 2027.
Il est midi et bientôt 17 minutes. C'est la fin de ce magazine des sports du lundi. Mais Infomax se poursuit évidemment jusqu'à 13h avec Thierry. 13h qui sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Bel après-midi.